Il avait à son service, depuis de longues années, un secrétaire dévoué qui, tel un contrôleur aérien expérimenté, se chargeait de son planning compliqué. Parmi ses tâches, lui revenait le soin d'organiser, outre les rendez-vous professionnels de son patron, ses rencontres d'ordre privé. Il était au courant dans les moindres détails de la vie personnelle pittoresque de Tokai et s'acquittait de ses fonctions scrupuleusement, de manière purement administrative, sans observation inutile ni mimique accablée à propos de ce surcroît de travail. Il régulait avec habileté le flux des rendez-vous amoureux afin qu'aucun chevauchement ne se produise. Il avait même en tête les dates du cycle menstruel de chacune des maîtresses du moment, chose difficile à croire, il est vrai. Si son patron devait partir en voyage avec l'une de ces dames, c'était lui qui s'occupait de réserver les billets de train, les chambres dans un ryokan ou un hôtel. Sans la présence de ce secrétaire exceptionnel, la vie personnelle de Tokai, si riche et si exubérante, n'aurait jamais pu se dérouler avec autant de maestria. Pour témoigner sa reconnaissance à ce beau secrétaire, qui était gai naturellement, Tokai de temps à autre lui faisait des cadeaux. Fort heureusement, il n'était encore jamais arrivé qu'un époux ou un petit ami découvre ses liaisons, ce qui aurait placé Tokai dans une position délicate. Par nature, il était prudent et exhortait à ses amis à faire preuve de la même vigilance. Il leur conseillait en particulier de bien veiller à trois choses. Ne jamais agir précipitamment, ne jamais suivre le même schéma, et si un mensonge devenait inévitable, qu'il soit le moins compliqué possible. Même si cela revenait à apprendre aux mouettes à voler, mais on n'était jamais trop prudent. Malgré tout, il était impossible qu'il n'y ait jamais la moindre complication, impossible qu'aucun problème ne surgisse, étant donné le si grand nombre de relations entretenues au cours de toutes ces années, même si elles avaient été organisées de main de maître. Vient un jour où même un singe rate sa branche. Ainsi, une fois, une femme avait manqué de prudence et son amant très suspicieux avait téléphoné au secrétariat de Tokai pour s'enquérir de la vie privée du médecin et de sa moralité. Le secrétaire zélé avait habilement réglé le problème. Ou encore, il y avait eu un jour une femme mariée trop exaltée par son aventure et dont le jugement avait été un peu obscurci. Son époux était un sportif assez renommé, spécialisé dans les arts martiaux. Mais même là, l'affaire n'avait pas pris un tour dramatique. Tokai s'en était tiré sain et sauf, les épaules intactes. « N'avez-vous pas eu simplement de la chance ?» lui demandai-je. « Peut-être, » répondit-il en riant. « Peut-être que je suis chanceux. Il y a autre chose, cependant. Je ne dirais pas que je suis quelqu'un de très perspicace, mais dans ce genre de situation, j'ai un esprit d'à-propos extraordinaire. « Esprit d'à-propos » répétai-je. « Comment expliquer ça ?» Quand les choses se corsent, ma tête se met à travailler. Il hésitait. Il n'avait apparemment pas de bon exemple pour illustrer sa démonstration. Ou éprouvait-il quelques scrupules à en dévoiler un? Je repris la parole. Justement sur cette question de l'à-propos, il y a une scène là-dessus dans un vieux film de François Truffaut. La femme dit à l'homme « Il existe dans le monde bien des êtres courtois et d'autres qui ont un esprit d'à-propos. Naturellement, ce sont des qualités estimables l'une et l'autre, mais la plupart du temps, l'à-propos l'emporte sur la courtoisie. Vous avez vu ce film ?»«
Je ne crois pas, » répondit Tokai.
La femme s'explique alors avec un exemple concret. Si un homme ouvre la porte de la salle de bain alors qu'une femme est en train de se déshabiller, et s'il la voit nue, il referme la porte immédiatement en disant « Oh, pardon, madame !» Et il est poli. Mais si l'homme dit « Oh, pardon, monsieur !» il a l'esprit d'à-propos. « Je comprends, » dit Tokai, visiblement impressionné. « C'est une définition très intéressante. Sans compter que je me suis trouvé souvent dans ce genre de situation. » Et vous vous en êtes chaque fois tiré avec autant d'à-propos ? Tokai prit un air sérieux. Je ne voudrais pas me surestimer. Au fond, j'ai seulement eu de la chance. Je suis un homme poli qui a beaucoup de chance. Il me paraît plus sûr de penser de la sorte. Le docteur Tokai connut ainsi durant 30 années une vie chanceuse. C'est long, 30 ans. Et puis un jour, il tomba amoureux.
amoureux fou. Comme un vieux renard rusé pris au piège. Jamais il n'aurait cru cela possible. La femme dont il s'est pris avait 16 ans de moins que lui. Elle était mariée. Son époux, de 2 ans son aîné, travaillait pour une société informatique étrangère. Ils avaient une fillette âgée de 5 ans. La rencontre entre Tokai et cette femme avait eu lieu 1 an et demi plus tôt. « Dites-moi, me demanda-t-il un jour, vous pensez qu'on peut décider de ne pas aimer quelqu'un trop intensément ?» Je crois que c'était alors le début de l'été. Cela faisait plus d'une année que je connaissais Tokai. Je lui répondis que je n'avais pas fait cette expérience. « Eh bien, moi non plus. Je ne l'avais pas faite jusque-là, me répondit-il. Mais maintenant, oui. Vous essayez de ne pas trop aimer quelqu'un ?»« Exactement. C'est ce que je tente de faire aujourd'hui. » « Et pour quelle raison ?»« Une raison extrêmement simple. Trop aimer me déchire le cœur. C'en est presque insupportable. Ça me pèse tellement que je fais tout ce que je peux pour ne plus aimer cette femme. » Il semblait penser sincèrement ce qu'il disait. Sur son visage, je ne décelais pas le moindre soupçon de son humour habituel. « Concrètement, comment vous y prenez-vous » lui demandai-je. « De toutes les façons possibles. » J'ai essayé diverses techniques, mais en premier lieu, je m'efforce de penser à tout ce qu'il y a de négatif chez elle. Mais je me représente tous ses défauts ou ses faiblesses, et je m'en dresse la liste. Et puis je me récite cette liste encore et encore comme un mantra. Je me répète que je ne dois pas aimer cette femme plus que de raison. Ça marche ? Non, pas très bien, répondit Tokai en secouant la tête. D'abord, je n'arrive pas à lui trouver tellement de défauts. Ensuite, ses défauts me paraissent extrêmement séduisants, en réalité. Et enfin, je ne sais plus distinguer ce qui est trop accablant pour mon cœur de ce qui ne l'est pas. Je ne discerne plus les limites, tout devient flou. C'est la première fois que je vis une chose pareille. Je voulus savoir s'il avait déjà ressenti cela avec l'une de ses nombreuses maîtresses. « Non, jamais, » répondit-il franchement. Pourtant, un ancien souvenir remonta des profondeurs de sa mémoire. À vrai dire, maintenant que vous en parlez, j'ai éprouvé un sentiment un peu analogue quand j'étais lycéen, durant une courte période. Lorsque je pensais à cette personne, j'avais mal là, dans la poitrine, au point de ne presque plus pouvoir penser à autre chose. Mais c'était une histoire sans espoir et qui n'était pas réciproque. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Je suis un homme d'âge mûr, et avec cette femme, j'ai de vraies relations sexuelles. Et pourtant, je suis en proie à la confusion, au point que mes fonctions corporelles se dérèglent, en particulier mon système digestif et mon système respiratoire. Afin de vérifier l'état de son système digestif et de son système respiratoire, le docteur Tokai se réfugia un instant dans le silence. Si je comprends bien, vous essayez par tous les moyens de ne pas trop aimer cette femme, mais en même temps, vous ne voulez pas la perdre, n'est-ce pas ? Exactement. Je suis en contradiction avec moi-même, c'est évident. J'ai des sentiments partagés. J'espère en même temps 2 choses opposées. Et malgré tous mes efforts, je n'arrive à rien. Que dois-je faire ? Je ne peux pas la perdre. Si ça arrivait, je me perdrais moi-même. Mais cette femme est mariée. Elle a un enfant, je le sais bien. Et elle, que pense-t-elle de votre relation ? Tokai pencha un peu la tête, cherchant ses mots. Je ne peux faire que des suppositions, et ces suppositions ne font qu'accroître ma confusion. En tout cas, elle a clairement dit qu'il n'était pas question pour elle de divorcer. Elle ne veut pas détruire sa famille à cause de leur enfant. Mais elle poursuit tout de même sa relation avec vous. Ces temps-ci, nous cherchons des occasions pour nous rencontrer. Mais qui peut savoir ce qui se passera ensuite ? Elle craint que son mari ne se doute de quelque chose. Cela signifierait peut-être la fin de notre relation. Si son mari était au courant, nous ne pourrions plus nous voir. Ou encore, autre hypothèse, elle pourrait en avoir assez de moi. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui arrivera demain. Et c'est ce dont vous avez le plus peur ? Il existe tellement de possibilités que je suis incapable de penser à autre chose. Je n'arrive même plus à avaler quoi que ce soit. Le docteur Tokai et moi nous rencontrions dans une salle de sport du voisinage. Il apparaissait dans la matinée, le week-end, sa raquette de squash sous le bras, et au fil du temps, nous en vîmes à disputer un certain nombre de matchs. Comme il était poli, vigoureux et ne nourrissait qu'un appétit de victoire modéré, il était le partenaire idéal pour pratiquer un jeu des plus agréables. J'étais un peu plus âgé que lui, mais nous appartenions à la même génération et notre niveau était à peu près équivalent. Après avoir bien couru derrière la balle, bien transpiré, nous allions dans un pub du coin et buvons des bières pression. Comme beaucoup d'hommes bien élevés ayant fait de longues études universitaires et n'ayant jamais connu de difficultés matérielles, le docteur Tokai, au fond, ne se préoccupait que de lui-même. Ce qui ne l'empêchait pas, ainsi que je l'ai déjà noté, d'être un interlocuteur aimable et fort intéressant. Sachant que l'écriture était mon métier, il ne se bornait pas à énoncer des banalités et, peu à peu, il se confia à moi sur des questions plus personnelles. Peut-être estimait-il qu'un écrivain, tel un thérapeute ou un prêtre, avait le droit, voire l'obligation, d'écouter les confessions des autres. Il n'était du reste pas le seul à penser ainsi. J'avais fait cette expérience bien des fois auparavant. Mais il se trouve que je ne déteste pas écouter les confidences d'autrui, et en outre, ce que me racontait le docteur Tokai était passionnant. Honnête et franc, il était capable de s'observer d'un œil objectif. Il ne craignait pas non plus de dévoiler ses faiblesses à un tiers. Un penchant que partagent bien peu d'hommes de par le monde. J'ai connu de nombreuses femmes qui étaient plus jolies et mieux faites qu'elles, plus spirituelles, et qui avaient davantage de goût. Mais ces comparaisons sont totalement dénuées de sens. Parce que, j'ignore pourquoi, elle est pour moi quelqu'un de spécial. Peut-être pourrais-je parler à son propos d'un être de synthèse. Toutes ses caractéristiques sont comme reliées et regroupées en une sorte de noyau, mais si on les extrayait, aucune ne pourrait être mesurée ou analysée, jugée moins bonne ou meilleure. C'est l'être possédant ce noyau qui m'attire de manière irrésistible, comme un puissant aimant. Au-delà de la raison. Nous buvions de grandes chopes de black and tan en grignotant des frites et des pickles. « Il y a un poème, » dit le docteur Tokai. « Un rendez-vous avec mon amour, quand je songe à mon cœur avant, je ne pense plus aux choses passées. » C'est un poème de Gonshunagon Atsutada, tiré du recueil de 100 poètes un poème. Je ne savais vraiment pas pourquoi je m'en souvenais. Le terme « rendez-vous » fait référence à une rencontre amoureuse qui implique une relation charnelle entre un homme et une femme. C'est ce que j'ai appris lors d'un cours à l'université. À l'époque, ce poème me laissait à peu près indifférent et j'ai dû attendre d'avoir l'âge que j'ai maintenant pour être enfin capable de comprendre ce que ressentait l'auteur. La rencontre avec la femme aimée, l'embrasement des corps, les adieux, et ensuite cette perte immense qu'on éprouve, une sensation si dévastatrice qu'on en a le souffle coupé. En réalité, ces sentiments sont les mêmes depuis plus de 1000 ans, mais moi, pourtant, je les ignorais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, comme si j'avais souffert d'un manque béant dans ma vie d'homme. On dirait cependant que cette connaissance m'arrive un peu trop tard. Quelle importance, remarquai-je, qu'elle arrive trop tard ou trop tôt, une connaissance tardive vaut toujours mieux que pas de connaissance du tout. J'aurais tout de même préféré faire l'expérience de ces sentiments lorsque j'étais jeune, objecta Tokai. Ainsi, j'aurais pu développer des espèces d'anticorps qui m'auraient immunisé. Ce n'était sûrement pas si simple, pensais-je. Je connaissais des individus qui abritaient en eux de vilaines maladies latentes, sans pour autant avoir développé d'anticorps. Je m'abstins cependant de lui faire part de mes réflexions. Cela nous aurait entraînés beaucoup trop loin. Ça fait 1 an et demi que nous nous fréquentons, elle et moi. Comme son mari est appelé à voyager souvent à l'étranger pour son travail, nous nous voyons à ces moments-là. Nous allons dîner, et puis nous revenons chez moi et nous nous retrouvons au lit. Elle avait appris que son mari la trompait, et c'est ensuite que notre liaison a commencé. Il lui avait demandé pardon. Il avait quitté sa maîtresse, avait promis que cela ne se reproduirait pas, mais ça ne l'avait pas apaisé. C'est pour retrouver une sorte d'équilibre mental, en somme, qu'elle a entamé cette relation avec moi. Ce serait peut-être exagéré de parler de revanche, mais les femmes ont besoin d'une compensation psychologique. C'est très fréquent. Je n'étais pas certain que ce genre de comportement était réellement fréquent, mais je préférais garder le silence et écouter la suite de son récit. Nous nous sommes toujours retrouvés avec beaucoup de plaisir, car nous sommes parfaitement à l'aise ensemble. Nous avons eu des conversations animées, nous nous sommes confiés des secrets, nous avons fait l'amour longuement, d'une manière exquise. C'était vraiment une période merveilleuse. Elle riait beaucoup. Elle a un rire tellement joyeux. Et puis, au fil de nos rencontres, je suis tombé follement amoureux. Maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Et ces derniers temps, au terme de longues réflexions, je me retrouve hanté par cette question. Qu'est-ce que je suis au fond ? J'eus le sentiment que le sens de sa dernière phrase m'avait échappé, ou que je l'avais mal entendu, et je le priai de la répéter. Qu'est-ce que je suis au fond ? Une question bien difficile, fis-je observer. Certes, très difficile, dit-il. Et il hocha la tête à plusieurs reprises, comme pour en souligner la difficulté. Il ne semblait pas avoir remarqué mon intonation légèrement ironique. Oui, finalement, que suis-je ? Poursuivit-il. Jusqu'ici, j'ai travaillé dur comme chirurgien plasticien, sans jamais douter. J'ai fait des études de médecine en choisissant la chirurgie plastique comme spécialité. Au début, j'assistais mon père, et puis, lorsqu'il a dû cesser son activité à cause de sa vue déclinante, c'est moi qui ai pris la direction de la clinique. Je ne veux pas me tresser de couronne, mais je me considère comme un bon chirurgien. Dans le domaine de la chirurgie esthétique, il y a un peu de tout, du bon et du mauvais. Certains bénéficient d'une bonne publicité, mais en réalité, ce qu'ils font n'est pas très reluisant. Nous avons travaillé consciencieusement, dès le début, et pas un seul patient n'a connu de gros problèmes. En tant que professionnel, je tiens à mon honneur, voyez-vous. De même, dans ma vie personnelle, je ne suis pas malheureux. J'ai de nombreux amis, ma santé est bonne, en tout cas jusqu'à maintenant. Mon existence me comble. Pourtant, ces derniers temps, une question me taraude. Toi, qu'est-ce que tu es, au fond ? J'y réfléchis tout à fait sérieusement. Si je n'avais plus mon métier et mes compétences de chirurgien, si je perdais le mode de vie confortable qui est le mien aujourd'hui, et si, sans aucune explication, je me retrouvais soudain dépouillé de tout, nu, dans le monde, ce moi qui est le mien, que serait-il ? Tokai me regarda droit dans les yeux, comme s'il guettait une réaction. « Pour quelle raison cette question s'est-elle imposée à vous tout à coup ?» lui demandai-je. Je pense qu'elle a surgi peu après la lecture que j'ai faite d'un ouvrage sur les camps de concentration. Et il y était question d'un médecin qui avait été déporté à Auschwitz. Il était juif et possédait un cabinet à Berlin. Mais un jour, il a été arrêté avec sa famille et envoyé dans un camp de concentration. Jusqu'alors, il avait mené une vie paisible, dans une belle maison. Il était aimé de tous les membres de sa famille, respecté de ses voisins et apprécié de ses patients. Il avait des chiens. Il jouait du violoncelle, Schubert, Mendelssohn. Et le week-end, il donnait des concerts chez lui avec ses amis. Son existence était sereine et épanouie. Brusquement, tout a changé. Il a dû vivre l'enfer sur terre. Là-bas, il n'était plus un riche citoyen berlinois ni un médecin respecté. Il n'était quasiment plus rien, même plus un être humain. On l'a séparé de sa famille et traité plus mal qu'un chien errant. Il n'avait quasiment rien à manger. Les responsables savaient sûrement que c'était un médecin renommé et ils croyaient qu'il pouvait leur être utile, alors il a échappé aux chambres à gaz, provisoirement. Mais il ignorait toujours ce qu'il adviendrait de lui le lendemain. Un des gardiens pouvait très bien le tuer à coups de bâton, par caprice. Toute sa famille avait sans doute déjà été exterminée. Il marqua un temps d'arrêt. Et soudain, voilà ce que je me suis dit. Le destin tragique de ce médecin, moi aussi, j'aurais pu le connaître si j'étais né à une autre époque et dans un autre endroit, si, pour une raison quelconque, je ne vois néanmoins pas laquelle, j'étais brusquement arraché à ma vie habituelle, si j'étais privé de tous mes privilèges et réduit à un simple numéro, qu'est-ce que je serais, au juste? J'ai refermé le livre et j'ai réfléchi. Sans mes compétences professionnelles et ma réputation de chirurgien plasticien, je suis seulement un homme de 52 ans, dépourvu de mérite ou de talent particulier. Je suis encore en assez bonne santé, mais je ne conserverai plus très longtemps la vigueur de ma jeunesse. Je ne serai bientôt plus capable d'effectuer des travaux physiques longs et éprouvants. Je peux juste m'enorgueillir de savoir sélectionner un bon pinot noir, de connaître quelques bons restaurants de sushi ou autres, quelques bars agréables. Je sais choisir des accessoires de bon goût et les offrir aux femmes. Je sais également jouer quelques morceaux au piano, des partitions assez faciles que je peux déchiffrer au premier regard. Voilà tout au plus ce dont je suis capable. Mais si j'avais été expédié à Auschwitz, ces petits talents ne m'auraient guère été utiles.